Lorsque les journalistes de France Inter expliquent les motifs et les raisons de leur grève, eh bien, personnellement, j'ai très bien ressenti qu'ils le font beaucoup mieux que quand il s'agit de telle ou telle grève chez les autres catégories. Mercredi 28 janvier à 19h, mais alors c'était éclatant. Mais ça fait rien, je les soutiens quand même.
3 jours sans les journalistes de Radio France, ça fait un grand vide. Alors j'ai 2-3 idées que je voudrais leur proposer. On pourrait imaginer une nouvelle forme de grève qui consisterait à construire des bulletins d'information autour des mouvements sociaux. On pourrait par exemple faire un point complet de tous les mouvements de grève qu'il y a actuellement en France, du plus important jusqu'au plus petit débrayage d'une douzaine d'ouvriers dans une PME. Cette information est facilement accessible, il suffit de faire le tour des unions départementales des syndicats. On s'apercevrait d'ailleurs que la grève est toujours présente dans le secteur privé, contrairement à ce que veulent nous faire gober les masses médias qui parlent exclusivement des grandes grèves de la fonction publique. On pourrait aussi imaginer que la revue de presse du matin soit celle de la presse alternative. Cette presse est à la fois abondante, vivante et inventive. Il y a donc de la matière. Ces bulletins d'information auraient l'avantage de mettre l'éclairage sur une autre France qui lutte et qui se bat, au même titre que la France des entrepreneurs du baron Ernest Antoine. Mais pas pour défendre les mêmes valeurs, bien entendu. Ces bulletins enfin combleraient le grand vide dans lequel nous nous trouvons sans les journalistes de Radio France. Voilà, c'était Dany d'Aix-en-Provence.
Votre émission change des discours ambiants où l'on stigmatise le chômeur. Mon mari est un acteur de ce mauvais film. Il a fait partie de la manif du 1er janvier, mais ce n'est pas facile vraiment de s'exposer dans ce type de manifestation. La honte, l'humiliation remontent à la surface, et c'est sûrement pour cela qu'ils étaient si peu nombreux, les chômeurs. En tout cas, poursuivez votre série de témoignages passionnantes, poignantes, afin qu'ils éclairent les lanternes des Français d'en haut.
Si j'enfonçais encore un petit peu plus le clou, hier il y avait une dame qui s'était trouvée haut placée et qui s'est trouvée maintenant bien bas descendue. L'année dernière, en 6 semaines, j'ai écrit 96 lettres de candidature pour obtenir une formation où l'entreprise elle-même n'aurait payé que 40 à 60% d'un salaire minimum. J'ai reçu beaucoup de réponses quand même, beaucoup. 46, presque 50%. J'allais directement au deuxième paragraphe et je lisais le premier mot. Cependant, hop, je tournais. Malgré tout, hop, je tournais. Toutefois, hop, je tournais. Néanmoins, hop, je tournais. Quand je suis vraiment en forme, j'essaie d'avoir de l'humour à la Desproges. Je sais pas si j'y arrive. J'ai enfin trouvé mon épitaphe. Ouf.
Pourrait-on chiffrer les sommes astronomiques que représentent les milliers d'exonérations de charges sociales offertes depuis des années aux administrations et aux entreprises pour qu'elles emploient au rabais tant de personnes sous contrat bidon? Si tous ces emplois avaient été des emplois normalement payés, assortis des charges normales réglées par les employeurs et les salariés, les trous de la sécu, des assédiques et des caisses de retraite ne seraient pas aussi monstrueux. Pour justifier ceci, on accuse les gens de se soigner, surtout les vieux. On soupçonne les médecins, on culpabilise les chômeurs, qui ne demanderaient que de travailler, de vivre normalement, et on en a vu assez se raccrocher à leurs entreprises, qui les jettent comme des Kleenex. C'est facile de culpabiliser la soi-disant France d'en bas, pour lui clouer le bec et l'humilier. Mais les journalistes, aurez-vous le courage de dénoncer avec force cette réalité, chiffre à l'appui? J'avoue que vraiment, je suis scandalisée de tout ça, cette histoire du trou de la sécurité sociale, quand on pense à tous ces cadeaux qui ont été faits partout, vraiment, ça me met hors de moi.
Oui, salut Daniel, c'est Manu de Marseille. Ben, je fais partie de la grande famille des recalculés. Je suis cadre au chômage, donc le parc qui me liait aux assédiques a été rompu. J'ai été prévenu fin octobre, alors là c'était vraiment marrant, par un courrier complètement laconique qui me disait en gros, ben, mon coco, le beurre dans les haricots, c'est fini pour janvier. Donc ils m'ont mis dans la vue 9 mois de droit d'indemnisation. Donc ben voilà quoi, déjà être chômeur c'est pas grave, mais en plus nous faire culpabiliser et puis nous mettre à contribution de cette façon, ça c'est vraiment dégueulasse. Donc ben, le baron Sédière, il doit être content aujourd'hui. J'ai plus d'aide, j'ai pas droit à l'ASS parce que j'ai pas travaillé suffisamment longtemps. Le RMI c'est dans 3 mois. Mais ben, en attendant, je vais aller sucer des cailloux, quoi. Mais bon, contre cette injustice, j'ai décidé d'assigner l'État, avec l'aide de la CGT Marseille, devant le tribunal de grande instance. Je suis pas tout seul dans ce cas, on a à peu près 1000 chômeurs à avoir fait cette démarche. On a discuté avec nos avocats et d'après eux, on a des bonnes chances de gagner parce qu'on oblige tout simplement l'État à respecter ses engagements. Voilà, donc à côté des manifs de rue qui sont vraiment nécessaires, bah, il faut pas hésiter à employer la voie juridique quoi, pour dire ça va, quoi, il y en a marre, y a basta. Voilà, on tient au courant. Salut.
Procédure de saucing des pizzas, de cheesing des pizzas, c'est-à-dire gagner le plus de temps possible pour être le plus productif possible.
Voilà la vraie vie, enfin, telle que l'a vu Thierry Scharf, c'est peut-être pas tout à fait la vraie vie, c'était hier, c'était comme ça qu'on travaille chez Pizza Hut. Et là, aujourd'hui, vous savez, ces gens qui vous appellent au téléphone pour vous vendre Internet, pour vous vendre un abonnement, ou ben, comment ils travaillent exactement, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je voulais donner des précisions concernant le reportage d'avant-hier de Claire Otter sur les assédis qui sont assignés en justice. Vous avez une petite précision, petite aujourd'hui dans le quotidien Le Monde, qui nous indique que les associations de chômeurs AC, APEIS, MNCP et CGT Chômeurs vont assigner les assédics devant 36 tribunaux pour, je cite, rupture de contrat après que 200 000 chômeurs eurent été radiés prématurément du système d'assurance chômage. Depuis le 1er janvier, ces associations estiment à 850 000 le nombre de personnes concernées d'ici à 2005 par cette révision unilatérale du contrat jugé humainement inacceptable. Elle conteste la clause de sauvegarde pour déficit imprévisible invoquée par l'UNEDIC, en rappelant qu'au moment de l'instauration du PAR, ces caisses comptaient 100 milliards de francs d'excédent. Fin citation. Les quatre associations, qui indiquent qu'un millier de dossiers sont entre les mains de la justice, veulent donner un caractère massif à leur procédure. Ainsi ont-elles décidé de multiplier les réunions publiques à partir du mois de février. Voilà, c'est pour répondre à l'auditeur qui souhaitait un autre genre d'information. Là-bas, si j'y suis, est toujours solidaire avec les journalistes de l'information, en grève pour la parité de leur salaire. Et aujourd'hui, donc, nous, on va voir comment ça se passe de l'autre côté du téléphone. Si jamais vous l'ignoriez encore, il faut souligner sans doute aujourd'hui que l'année 2003 s'est achevée avec 137 900 chômeurs supplémentaires et que le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru de 0,5% au mois de décembre, c'est-à-dire que le chômage frappe 9,7% de la population active de notre bel hexagone. Voilà, mais vous savez ce qui va se passer? Eh bien, le chômage va reculer en 2004. Et oui, c'est François Fillon qui l'a dit.
C'est bien beau, là, d'entendre tous ces braves gens qui commencent à se remuer et tout ça. Puis on entend aussi, au début de ton émission, lors d'une manif, ils étaient 100 ou 200. Tu sais, maintenant, et la plupart de tous ces gens-là, je suis à peu près sûr qu'ils ont voté dans les 82% pour Chirac. Hein, alors, faudrait savoir. Bon, ben, je crois que je peux rien à dire. Ah, si. Moi, j'étais un ancien mineur. On s'est battu. On a tout perdu, de toute façon. Allez, au revoir. C'est José de Cœur.
Bonjour. Je m'appelle Nadia. J'ai 24 ans. Et depuis septembre 2003, je suis prof. Me voilà dans la vie active. Les messages au répondeur de là-bas si j'y suis ce jeudi m'ont fait pleurer. Et je pleure depuis dimanche, quand mon père, qui a 54 ans, il nous a appris qu'il avait été licencié. Alors oui, c'est un choc psychologique et social, comme l'a dit Chantal. Mais je n'ai même pas envie de me plaindre et en plus, le pire, j'arrive même pas à être en colère. Je suis angoissée, voilà tout. Alors, tant que les patrons auront le pouvoir aveuglément, les petits ne pourront que souffrir. Et en silence, s'il vous plaît. Je remercie l'équipe de là-bas si j'y suis, qui m'a permis de grandir et d'apprendre que la société n'était pas faite d'espoir finalement, mais qu'on n'avait qu'à se battre. J'espère qu'on y arrivera un jour. Alors, mon dernier message s'adresse à mon père, que j'aime très fort, et papa, je suis très très fière de toi. Au revoir.
Je suis en train d'écouter l'émission sur les pizzas, tout ça, voilà. Ce que les jeunes ont dit, là, qui était corvéable, rappelable, là, merci. Ça te rappelle rien, ça, le 19e siècle, les bourses du travail, l'origine des bourses, de ce qu'on appelle maintenant les bourses du travail, où les gens allaient se présenter et les patrons pensaient puis choisissaient les travailleurs. À mon avis, c'était pour la peine de fêter le millénium parce qu'on est revenu 2 siècles en arrière.
Oui, bonjour. Voilà, j'ai entre les mains un cahier d'exercice de l'ANPE qui s'appelle très doctement « Identifier ses atouts pour son projet professionnel ». Alors, page 7. Répondez spontanément à ces questionnaires. Précisez à chaque fois les raisons de votre choix en quelques phrases ou quelques mots. Laissez libre cours à votre imagination. Alors voilà donc les tournures des questions. Si j'étais une couleur, je serais. Donnez 3 raisons qui vous ont conduit à choisir cette couleur. Si j'étais un animal, je serais. Si j'étais un arbre, je serais. Si j'étais un être féerique, je serais. Si j'étais un objet, je serais. Si j'étais un plat cuisiné, je serais. Si j'étais une saison, je serais. Si j'étais une œuvre d'art, je serais. Si j'étais une matière, je serais, je sais pas, de la merde. C'était Alain de Tours.
Jean-Claude Isenman, Lausanne, en Suisse. Salut Daniel. Alors 2 choses sur l'émission d'aujourd'hui. La première, d'abord, si l'entreprise Pizza Hut existe, c'est qu'il y a un marché. Et si c'est un marché, c'est qu'il y a des amateurs, des amateurs qui sont d'accord de marcher dans le marché, de mâcher une béchamel croisée avec un chewing-gum tartiné sur un fond de carton ondulé et parsemé de résidus transgéniques d'abattage de synthèse. Bah, ces amateurs, c'est vous, c'est nous. Et si au lieu de ça, on prenait le temps de se faire une quiche au poireau? Hein, quelques minutes de préparation, une demi-heure au four bien chaud, et alors ces établissements de bouffe pathétiques n'existeraient tout simplement pas. Deuxième chose, c'est que l'organisation quasi militaire de ces escadrons de la morve, dont vous avez parlé, est dictée par la nature même du combat à mener, dont les règles sont fixées par le consommateur, c'est-à-dire vous, enfin nous. Ben oui. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, qu'on vous livre une pizza froide et sans fromage à 64€ 2h30 après l'avoir commandée? Non. Au cours de la journée, vous savez bien qu'on passe tous plusieurs fois du rôle d'employé exploité à celui de client exploitant. Ben oui, ça fait tellement de bien de détenir même provisoirement une petite parcelle de pouvoir sur l'autre et de maintenir ainsi le système qui turbine. Il n'y a pas que les patrons qui sont des salauds ordinaires, on y arrive très bien aussi, nous. Non? Allez, salut Daniel. Voilà, j'ai fini, j'ai pas fait 2 minutes. Alors vous pouvez garder le temps restant pour en faire quelque chose. Ben oui, vous avez le temps de vous faire à manger plutôt que de commander une pizza d'une pizza. Au revoir.
Ah, je le comprends parfaitement, monsieur Akram. Enfin, vous savez très bien qu'à son travail, on travaille. Et à la maison, vous avez plus de temps pour consulter la DSL. Très bien. Donc, vous serez quand même plus à l'aise pour effectuer toutes les recherches et l'envoi des documents, monsieur Akram.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, là-bas si j'y suis, l'avenir, vous l'aimez comment?
Flight number 2, arriving from Newton.
Vous n'avez pas de connexion internet, d'accord? Vous avez un ordinateur chez vous?
Toujours que c'est le meilleur pas de voir la demande internet par France Télécom.
D'accord, et vous ne seriez pas intéressé par avoir une connexion internet chez vous? Vous n'avez pas de prise de téléphone?
Il y a des tableaux avec marqué nos noms dessus. Tous les superviseurs, ils ont des statistiques. Et lorsqu'ils voient une personne avec des objectifs non atteints, et bon, ils sont capables de gueuler les noms. Mathilde, il reste encore 2 objectifs. Allez, on encourage tous Mathilde. Et dès que la personne réussit à le faire, tout le monde doit l'applaudir.
Non.
Si, si, carrément.
Moi, j'appelle ça le prolétariat moderne. Le prolétariat moderne. C'est de travailler à la chaîne, c'est comme à l'usine, quoi, un peu. Parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas les mains sales, mais au niveau du mental, c'est les mêmes.
Si tout à l'heure il n'y a plus de fichiers, on finira à 17h et on sera payé jusqu'à 17h.
Tant que t'as du travail, même si c'est pas un travail qui est bien payé, que c'est pas un travail qui me tient vraiment à cœur, au moins je préfère être ça qu'être à la rue et ne rien faire, quoi.
Bonsoir, Dominique Lacroix de Wanadoo, Internet avec France Télécom. Je souhaiterais parler à monsieur ou madame Guérinet, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur, je me permets de vous appeler en fait pour savoir si actuellement vous disposez à votre domicile d'une connexion Internet. Oui, vous avez un système ADSL? Oui, vous êtes avec quel fournisseur d'accès, monsieur?
Charlot, bah oui, c'est Charlot dans les temps modernes. Sauf que, au lieu que ce soit des engrenages monstrueux, mécaniques, qu'il essaye de maîtriser avec tout petit bonhomme avec sa grosse clé, eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est dans la tête. Sauf que c'est le mental maintenant. C'est plus le corps, c'est le mental. Tout est dit, tout est dit. Vous savez exactement de quoi nous allons parler. Au moins les 200 000 qui travaillent, si on peut appeler ça du travail, dans ces call centers, savent très bien de quoi ils retournent. Et nous, l'autre côté, les consommateurs, au bout de notre téléphone, ou bien parce que nous sommes appelés, ou bien parce que nous appelons, nous sommes de plus en plus nombreux, nous avons pris l'habitude d'appeler pour régler notre portable, pour retenir des places de train ou d'avion. Tout ça nous semble tout à fait normal, et si on n'est pas content, on ne manque pas de gueuler. On engueule, et ben on engueule ces gens-là. C'est fait exprès, c'est fait pour ça, et c'est absolument infernal. C'est le grand bond en arrière. C'était pas tellement ce qu'on nous avait annoncé il y a quelques années, au moment de, mettons, dans les années 80, au moment de la grande euphorie néolibéral, où tout allait devenir si flexible, si nomade, si merveilleux. Voilà les résultats aujourd'hui dans ces petits paradis où notre jeunesse apprend la vie et s'interroge sur son futur.
Bonsoir, Dominique Lacroix de Wenadou, Internet par France Télécom. N'ayez pas de prise de téléphone.
Bienvenue chez Orange. L'un de nos conseillers termine sa conversation avec un client et vous répond tout de suite après.
Service client d'Arty, bonjour et bienvenue chez Orange.
Bonjour, je me demandais si vous aimiez votre travail.
Oh bah écoutez, oui, pourquoi ?
Non, comme ça, parce que c'est pas évident comme travail.
Si, c'est un travail de contact, donc c'est pas du tout désagréable. Puis en plus, il faut se dire qu'il y a du travail tellement plus pénible que finalement, non, c'est pas du tout désagréable.
Je me demandais si vous étiez écouté dans votre travail, si on vous surveille.
Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait légal et nous, ça va dans le sens en fait, comme ça on a des limites et en fait on sait où on en est aussi également. Je crois de toute façon une vie sans surveillance, ça n'existe pas dans un monde. Donc de toute façon, d'une façon ou d'autre, faut prendre les choses comme elles se présentent. Hein, et en plus on a la chance de travailler, donc ça il faut prendre aussi avec diplomatie. Très bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain. Demain sera toujours demain.
Pour qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui.
Bonsoir monsieur, je me permets de vous appeler en fait pour savoir si actuellement vous disposez à votre domicile d'une connexion internet. Oui, vous avez un système ADSL? Oui, vous êtes avec quel fournisseur d'accès monsieur? Avec Wenadou? Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée monsieur. Au revoir.
Temps de la pause là, mesdemoiselles?
Oui, tout à fait. C'est donc le temps de la pause. On a 5 minutes par heure travaillée.
Vous êtes en intérim là?
Oui, je suis en intérim. Toujours en intérim.
Vous aussi?
Oui.
Quel âge vous avez?
25 ans.
Et moi 26.
Ouais. Mariée, un enfant. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Sachant qu'aujourd'hui, c'est des contrats à la semaine, donc par intérim. Ce qui veut dire que si par exemple aujourd'hui je ne conviens pas, on peut me mettre dehors du jour au lendemain. Bon, nous, on a quand même un statut, bon, pas que différent des autres, mais bon, nous sommes téléacteurs, nous avons quand même une mission bien précise, sachant qu'il y a des personnes qui font, par exemple, des spots, ils viennent toute la journée, ils ne travailleront que 3 heures, sachant qu'ils seront là de 10 heures, par exemple, à 18 heures, ils seront payés que les 3 heures qu'ils ont travaillé, sachant qu'ils ne peuvent pas partir, puisque, de toutes les manières, s'ils partent, ils pourront pas assurer donc le spot d'une demi-heure, ce qui fait qu'ils ne pourront pas être payés.
Ça, c'est pas évident, une vie comme ça, à géométrie variable.
Aucune garantie pour l'avenir. On ne sait même pas combien on sera payé à la fin du mois.
C'est aléatoire, suivant la boîte d'intérim.
Selon les fichiers, voilà, surtout. Les fichiers. Ça veut dire que si tout à l'heure il n'y a plus de fichiers, on finira à 17h et on sera payé jusqu'à 17h. Voilà. Et si demain il n'y a pas de fichiers, ben, on ne viendra pas travailler parce qu'il n'y aura pas de fichiers. Donc c'est jusqu'à qu'il y a une autre mission qui commence. Et nous ne sommes pas forcément prioritaires. Il faut appeler tous les jours. Sinon, on n'a rien à la fin du mois. On n'a rien pour survivre. Sachant qu'il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui ont des maris, on a des loyers, on a plein de choses. Donc c'est comme je vous dis.
Sachant que par exemple, si on voudrait prendre, je sais pas, un appartement en intérim, on n'a aucune chance d'être accepté nulle part.
Moi, j'ai un bac comptable. La fille que vous avez vue tout à l'heure, elle a bac plus 4, ce qui n'est pas négligeable.
Et vous ?
Moi, j'ai un bac plus 2.
Et je trouve ça vraiment hallucinant qu'à cette époque, on puisse pas avoir un travail correct, sachant qu'on a quand même des capacités et on sait ce qu'on fait. Sachant qu'on nous parle n'importe comment, il y a des personnes qui justement jouent de leur responsabilité, de leur maigre responsabilité, pour se permettre de nous parler un peu comme des chiens, et nous n'avons pas le choix parce que on est sommes un intérêt, mais qu'on peut nous dire au revoir à n'importe quel moment.
C'est clair. Et qu'on peut aussi nous faire des réflexions parce qu'on porte un foulard ou un chapeau des fois.
Donc on peut pas venir habiller comme on veut.
Pourtant c'est du téléphone, on vous voit pas.
Voilà, mais justement on nous demande parfois d'être en
talons. Se déplace parfois sur le plateau.
Et ce sera tout.
Et c'est speed.
Très très speed. Ouais. Très très speed, parce qu'il faut que je reparte là, sinon je vais me faire tirer les oreilles.
Ouais.
J'ai plus de pause à cause de vous.
Edaco, numéro 1 du travail temporaire.
Alors Karim, t'as fini ta journée là?
Ouais, j'ai fini, ça va. Franchement, là, je vais rentrer chez moi dans le Nord.
Tu vis dans le Nord?
Normalement, j'habite Dunkerque, mais comme il n'y a pas de travail là-bas, le chômage, il est à taux élevé. Donc moi, j'ai préféré migrer vers Paris. Là, il laisse plus la chance. Mais là, comme je vous dis, je suis intérimaire pour l'instant. Le temps de trouver autre chose vraiment de plus intéressant. Paris, c'est pas trop loin, c'est à 300 km. Ça me pose pas de problème de faire des allers-retours, quoi.
Donc là, on est vendredi soir. Et tu vas rentrer chez toi, quoi.
Exactement, et je reviens dimanche pour travailler lundi. Lundi, je ferai du midi 20h, avec une pause déjeuner de 16h à 17h. Et la semaine comme ça jusqu'au vendredi.
Toi, t'as quel âge?
J'ai 24 ans.
Et t'enchaînes depuis combien de temps ce genre de boulot-là en intérim?
Ouais, ça fait exactement 2 ans, depuis que j'ai quitté mes études depuis 2000. J'ai fait un deuil en langue étrangère appliquée à Dunkerque. Mmh. Bah après, j'ai décidé de rentrer dans la vie active.
Là, ça fait 2 ans d'intérim, là.
Exactement. Là, 2 ans, mais faut dire sur les 2 ans, j'ai travaillé quoi? On va dire un an et quart. J'ai pas travaillé les 2 ans complets, hein. Parce que c'est difficile de trouver du boulot. Et même si vous trouvez du boulot, vous savez, c'est un vrai turnover surtout au niveau du télémarketing. Dès que vous avez besoin de vous, ben, écoutez, vous pouvez rester une semaine, comme un mois, comme 2 mois. Et après, ben, dès que vous avez besoin de vous, ben, ils vous disent, ben, à la prochaine, et vous partez, vous allez voir votre boîte d'intérim. Bon, on n'a rien pour l'instant. 1 mois, 2 mois. Après, vous retrouvez quelque chose. Vous retravaillez. Bon. Pour le moment, là, je suis chez Téléperformance, à côté. À la base, ça devait être une mission, comme elle m'avait dit, ma boîte d'intérim, de 1 mois. Et depuis août, je suis là. C'est vrai que le salaire ne suit pas, hein. Mais quand on n'a pas le
choix. Combien tu gagnes?
Entre 1000 et 1100 euros. Ouais, franchement, c'est pas suffisant, je trouve.
Bonjour et bienvenue chez nous. Pour nous permettre de mieux vous accueillir, merci de composer sur le clavier de votre téléphone les 5 chiffres de votre code postal. Et découvrir nos offres et vous abonner chez nous. Tapez 1.
Bonjour, bienvenue chez nous. Allô?
Comment ça se passe là, dans le call center là, chez Téléperformance? T'as fait quoi comme mission?
En fait, j'ai travaillé ici déjà mes joints pour Wanadoo. Mais là vraiment, c'était inadmissible. Moi, j'ai arrêté de suite. J'aurais dit, moi, je pouvais pas travailler dans ces conditions-là.
Pour Wanadoo, c'est-à-dire?
Déjà, vous savez, nous sommes téléacteurs. Donc, soit il y a de l'émission ou de la réception d'appels. Moi, je faisais de l'émission.
C'est-à-dire que c'est toi qui téléphonais aux gens?
Pas moi qui téléphonais, c'est l'ordinateur qui appelait lui-même. Et c'est enchaîné sur enchaînement des appels. Vous imaginez, franchement, rester 8 heures assis sur une chaise, à vous prendre des appels comme ça, après, vous avez une tête, une grosse tête, et vous êtes pressé de rentrer chez vous, vous avez des maux de tête, et franchement, c'est des conditions inadmissibles de travail. C'est pour ça que moi, au bout d'un mois et demi, j'ai cédé, j'ai arrêté. Et moi, après, j'étais devant la boîte d'intérim, j'aurais dit, écoutez, moi, il me faudrait plutôt de la réception que de l'émission. Je vais pas exagérer, hein,
On est au moins une quarantaine dans une salle avec quatre superviseurs, ceux qui nous gèrent, et ils vous mettent la pression. Faites des accords et...
Des accords, c'est quoi?
Quand j'avais travaillé pour Onado, il fallait appeler les clients pour leur proposer le forfait ADSL. On nous mettait la pression dessus, donc nous, on appelait les clients et on leur mettait la pression à ces clients. Et il fallait au moins faire 7 accords de la journée et 8 contacts de l'heure. Que ce soit un refus ou un accord. Environ, en moyenne, 2 accords de l'heure, quoi. Et franchement, c'est vachement difficile. Il faut être vraiment, faut en vouloir, quoi. Mais quand on n'a pas le choix, comme je vous dis, quand on n'a pas de travail, on est obligé de se soumettre à ces règles. On est écouté, vous savez, les superviseurs nous écoutent, ensuite nous débriefent, nous disent voilà, tu as dit ça, il faut pas dire ça. Mais vous savez, quand pendant 8 heures on est au téléphone, on connaît le produit à force, c'est pas la peine de nous mettre la pression comme ça. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Pourquoi vous nous avez écouté? Vous nous faites pas confiance, vous nous avez formé, vous nous avez briefé. Donc voilà, quand il est après quand ils nous disent ouais, au fait on t'a écouté, voilà ce qui va bien, ce qui va pas bien, quoi. Après c'est vrai que ça vous fout le moral à zéro. Genre ce qui est c'est vrai que c'est leur travail, nous on peut pas trop leur reprocher ça. C'est ce qu'il faut qu'ils fassent.
Parce qu'en plus c'est des gens comme toi qui ont évolué, non?
Exactement, c'est des personnes qui étaient lecteurs qui sont devenus superviseurs. Bah c'est vrai, moi je peux rien leur reprocher vu que c'est leur travail. Mais quand même qu'ils nous écoutent pas à longueur de journée. Qu'ils nous écoutent quoi une fois par mois et encore. Mais là c'est quotidien. C'est pas atteinte à la personne, quoi, mais quand même, c'est presque ça, quoi.
Le futur, vous l'aimez comment?
Eh oui, le futur, vous l'aimez comment? Revolution, toute une époque. Les libertaires devenus libéraux. Eh oui, ami Lily, ami Bobo, cette émission, ce reportage vous concerne. Eh oui, ces pubs sont évidemment infiniment séduisantes. Ce qui se passe derrière, après ça, quand on appelle sur la hotline, c'est un petit peu différent. Standardisation pathogène du travail. Ainsi s'exprime autrement ce qui vient d'être dit, les sociologues, spécialistes, syndicalistes qui observent cette situation, ce grand bond en arrière. C'est vrai ce que disait l'auditeur tout à l'heure, que la bourse du travail, jadis, c'était ça, des gars qui attendent contre un mur avec des outils qu'on veuille bien venir les chercher. On a vu tout ça partout à travers le monde au cours de nos voyages. On le voit aussi maintenant dans nos villes, dans certains quartiers de Paris même, des gars qui attendent qu'on vienne les chercher pour quelques heures de boulot, pour quelques jours, pour quelques instants. Cette dégradation des conditions de travail chez nous nous renvoie effectivement à des époques lointaines. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces époques lointaines et aujourd'hui? C'est que des gens ont lutté, et ceux qui ont lutté, eh ben c'était les travailleurs, c'était les prolos, c'était des ouvriers, c'était toutes sortes de personnes qui, se considérant exploitées, ont lutté. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le droit du travail, les acquis ont été conquis, et depuis, eh bien, 25 ans, on va dire, enfin, encore plus, c'est aujourd'hui, c'est toute la destruction de ces acquis et de ce droit auquel nous assistons. Difficulté, évidemment, dans ces conditions, de défendre. Extrêmement difficile d'implanter la moindre vie syndicale, la moindre réplique, le moindre contre-feu. Jean-Pierre Bourriaud, syndicaliste Sud PTT.
Jean-Pierre Bourriaud, vous êtes syndicaliste Sud, oui. Et vous occupez de ces centres d'appel. Vous avez vous-même travaillé là-dedans, etc. Mmh. Mmh. Le syndicalisme et les boulots précaires, ça va pas bien ensemble?
Non, c'est très dur pour les syndicalistes, effectivement, d'organiser des gens qui ont des boulots précaires pour une simple raison, c'est que on les voit un jour, on les voit plus le lendemain, on les voit une semaine, on les voit plus la semaine d'après, et c'est très difficile. En plus, c'est une population qui est jeune, parce que bon, les centres d'appel, il faut avoir envie d'y travailler dedans. C'est une population qui trouve pas de boulot ailleurs, de jeunes issus de banlieue, souvent immigrés, etc., et qui ont aucune tradition d'organisation collective. Oui. Et politique, souvent non plus. Il n'y a pas de tradition. Mais effectivement, pour un syndicaliste, c'est difficile. Mais c'est une nécessité d'organiser ces gens-là, parce que les conditions de travail dans les centres d'appel, c'est déplorable. Bon, les pressions permanentes sur les gens pour qu'ils vendent, les pressions permanentes sur les gens pour qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils répondent plus vite, les limitations de temps de discussion avec les clients. Bon, mais c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Très bien, très bien. Très bien. C'est moi qui vous remercie de votre accueil, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Très bien, bah vous nous contactez, on sera à votre disposition à ce moment-là. Merci, bonne soirée, au revoir. Très bien, très bien. Très bien. C'est moi qui vous remercie de votre accueil, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Très bien, bah vous nous contactez, on sera à votre disposition à ce moment-là. Merci, bonne soirée, au revoir.
La chance de travailler. La chance de travailler, disait tout à l'heure cette jeune fille encore. Nous, on a la chance de travailler. Difficulté d'installer la moindre vie syndicale, mais c'était prévu, tout est fait. C'est une vieille lutte, hein. Jadis, on appelait ça la lutte ouvrière. On peut tout à fait reprendre ces termes-là aujourd'hui. Il y a, depuis notre 19e siècle, une lutte entre le capital et le travail. Il faut appeler ça, il faut appeler les choses par leur nom. Mais quand on va sur des termes de téléperformance, de téléacteur, de superviseur, d'ordinateur devenu des ordonnateurs, c'est vrai que le langage brouille les idées et les réalités. C'est fait pour ça. Difficulté d'appliquer tout simplement ce droit du travail. Difficulté pour les inspecteurs du travail qui sont là pour appliquer ce droit. Exemple, Gérard Filoche, inspecteur du travail à Paris.
C'est quoi la précarité, selon vous ?
Ne pas avoir d'avenir ni d'horizon lisible. Ne pas savoir comment on va payer son loyer, élever son enfant et assurer la continuité de sa vie professionnelle. Être sans arrêt sous la menace de l'employeur, et à sa merci, on est encore plus obséquieux ou plus subordonné, parce que sinon, on n'aura jamais de CDI.
Alors, vous, est-ce que vous voyez une explosion de la précarité ? Est-ce que vous la voyez grandir ?
Bien sûr, elle grandit, c'est-à-dire que c'est une menace. Mais fort heureusement, elle n'a pas atteint le cœur du contrat de travail. Il reste encore 8 à 9 salariés sur 10 qui sont en CDI. Tant mieux, faut le dire, parce que sinon, on n'aurait plus d'espoir. Il faut s'appuyer sur le fait que le CDI reste massivement le contrat principal. Mais il est rogné, c'est-à-dire que les CDD et l'intérim, petit à petit, grignotent comme les termites le tronc de l'arbre, et qu'elles visent, elles font pression, elles menacent le CDI. Alors, ça, en chiffres, vous avez 900 000 CDD, 650 000 intérimaires, vous avez 3 millions et demi de temps partiel qu'on peut parfois reclasser dans les précaires, parce qu'en vérité, on ne peut pas vivre durablement avec un temps partiel, et puis parce que c'est souvent subi et non pas choisi, et que c'est parfois aussi combiné avec des solutions de type intermittence ou saisonnière. Donc tout ça fait quand même 10, entre 10 et 12, 12,5, 15% de l'ensemble des salariés que l'on peut classer comme précaires. C'est pas énorme, mais c'est trop, parce que c'est une menace. C'est ça qui
imprègne l'ensemble des actifs. Hein.
Ça sape les bases. De la même façon que on fait pression sur le salarié en le menaçant du chômage, hein, on lui dit, ah bah, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ta place, donc on le fait travailler plus et on l'oblige à pas réclamer le paiement de ses heures supplémentaires. Et bah, de la même façon, on fait pression sur le salarié en lui disant, bah, il y en a, ils sont pas comme toi, ils sont précaires. La précarité, le chômage, c'est une façon de renier l'emploi. Ce sont des taupes, des termites.
Bienvenue chez Orange. L'un de nos conseillers termine sa conversation avec un client et vous répond tout de suite après.
Moi, j'appelle ça le prolétariat moderne. Le prolétariat moderne. C'est de travailler à la chaîne, c'est comme à l'usine, quoi. Tu viens, tu pointes, tu fais 8 heures et tu pars. Ah ouais, c'est comme à l'usine. Parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas les mêmes salles, mais au niveau du mental, c'est les mêmes. Enfin, voilà, quoi. On est obligé de subir quand on n'a pas le choix. Ce que vous avez envie, c'est que la fin de journée arrive le plus tôt possible et rentrer chez vous et vous reposer, quoi. Parce que vous savez que le lendemain, ça sera toujours la même chose. Et franchement, il faut en avoir pour faire ce travail-là. Enfin, moi, je me dis toujours, tu vois, tant que t'as du travail, même si c'est pas un travail qui est bien payé, que c'est pas un travail qui me tient vraiment à cœur, au moins je préfère être ça qu'être à la rue et ne rien faire, quoi. Franchement, j'ai peur de ça. J'ai pas envie de, du jour au lendemain qu'on me dise voilà, y a pas de travail et j'ai pas de ressources. Donc pas de ressources veut dire pas d'argent, donc voilà, l'engrenage, quoi. On se retrouve à la rue du jour au lendemain et moi c'est ce que je veux pas. Il faut travailler, quoi. C'est tout ce que je peux dire. On n'a pas le choix.
Aujourd'hui, avec Orange, votre monde tient dans votre main. Le futur, vous l'aimez comment ?
La meilleure des choses, c'est de travailler à son compte.
Ce serait ton objectif ?
Ce serait mon objectif. Je voudrais monter une boîte d'informatique au niveau de tout ce qui est cybercafé ou taxiphone, en même temps, et un café oriental.
Ouais ?
Ouais. Franchement, ça marcherait bien, vu que au niveau du taxiphone, il y aura beaucoup de personnes qui voudraient venir téléphoner pour s'amuser un petit peu au niveau d'Internet et en même temps pour se détendre au niveau du café. Mais c'est vrai que c'est un coût important et j'espère franchement qu'un jour ce projet arrivera à terme.
Son rêve n'appartient qu'à elle. Le sien n'appartient qu'à lui. C'est pourquoi Sofinco a créé le prêt très personnel. Un prêt de 5 000 à 140 000 francs où vous choisissez tout. Le montant des remboursements, leur durée et surtout ce que vous voulez en faire. Pour votre prêt très personnel, appelez dès maintenant Sofinco au 0800 101 102.
Alors le management qui motive, ça c'est impressionnant. Il y a un chef pour 7-8 personnes. Bon. Mais il y a des challenges. Pour motiver les gens, on fait des challenges. Alors les challenges, moi je peux vous citer France Télécom. Il y a des challenges pour vendre du Wanadoo. Il y a des challenges pour vendre du Orange. Il y a des challenges pour vendre des Extens, ADSL, etc. Et alors, qu'est-ce que fait la boîte ? Ben, elle offre aux gens des cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être des trucs à gratter, Française des Jeux, hein. Ça peut être une soirée dans un cabaret comme le Moulin Rouge. Je cite ça parce qu'ils avaient fait un challenge froufrou par exemple, c'était très drôle. Ils avaient mis des plumes sur tous les micros parce que c'était un challenge froufrou.
Sur les ordinateurs ?
Sur les ordinateurs, sur les ordinateurs, partout ils avaient mis des plumes. Ils ont fait un challenge aussi pour vendre et chaque fois que les gens dépassaient le nombre de ventes, ils gonflaient un ballon. Alors, il y avait des responsables, des superviseurs, qui passaient leur journée à gonfler des ballons et accrocher des ballons sur les ordinateurs des gens qui avaient vendu plus. Et puis, il y a une tradition maintenant qui s'est installée à France Télécom, par exemple, dans les centres d'appel, c'est d'afficher purement et simplement les meilleurs vendeurs, la liste des meilleurs vendeurs semaine par semaine. Alors, il y a ça, et puis il y a maintenant en plus une prime qui est la prime aux vendeurs, qui donc fait que le salaire des gens, eh ben, il augmente en fonction de ce qui a été vendu. Alors au début, les objectifs, ça allait, puis au fur et à mesure, les objectifs, ils augmentent, et la prime diminue, donc il faut vendre de plus en plus pour garder la rémunération qu'on avait avant. Bon, et c'est des pressions permanentes comme ça qui existent, mais ça existe dans tous les centres d'appel, et bon, de ce point de vue-là, je dirais que Téléperformance ou des boîtes comme ça, qui sont des centres d'appel privés, ou France Télécom de l'autre côté, c'est pareil.
Bonsoir, Dominique Lacroix de Wanadoo, Internet avec France Télécom.
3000 centres d'appel comme ça en France environ, c'est pas mal. Hein. Je signale que nous n'avons pas de plumes sur nos micros, ni à la Massuzissi, ni à Radio France, mais enfin ça viendra peut-être un jour quand enfin, nous serons privatisés, ce qui ne serait plus tardé maintenant. Alors, c'est pas très difficile d'implanter un centre d'appel. Hein. D'abord, vous avez ces prêts extraordinairement avantageux. Là, vous avez entendu la pub. J'espère que ça vous est bien rentré ça dans la tête. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous montez sa boîte, c'est pas difficile. C'est pas difficile non plus parce que les élus locaux, eh ben, ils se font pas tellement prier pour dérouler le tapis rouge aux téléopérateurs qui veulent s'installer. Les locaux entièrement équipés sont mis très souvent à la disposition de ces entreprises. Évidemment, exonération de charges, ça va sans dire, fonds de soutien régionaux, non, là vraiment vous êtes aidés, pourquoi ? Bah parce que voilà, il faut se mettre à la place des responsables politiques locaux, il faut estomper les chiffres du chômage. C'est le souci d'un élu. On en a rencontré au cours de nos reportages à travers ce beau pays. Et les gars, ils disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le chômage dans notre secteur? Et ben, voilà, on va essayer d'attirer des pourvoyeurs d'emploi. Exemple, ces centres d'appel. On espère que Karim aura un jour son cybercafé oriental. C'est la grâce qu'on lui souhaite. Enfin, c'est la carotte qu'il s'est lui-même imposée. C'est tout à fait respectable. Alors là, c'était Jean-Pierre Bourriaud, syndicaliste à Sud. Voilà le commentaire de Gérard Filoche, inspecteur du travail.
Il y a des employeurs qui ne gèrent le personnel que de façon précaire. En fait, ils préfèrent un personnel souple, malléable, jeune, peu payé, qui s'en va en turnover, qui a pas de mémoire, qui va pas vous faire de syndicaliste, ni de délégué du personnel, ni de comité entreprise. Mais vous avez aussi des beaucoup plus grandes sociétés qui se payent tout à fait le même luxe. Hein, Renault. Renault, vous avez les entreprises, une entreprise d'une heure, sur 4500 salariés, vous aviez jusqu'à 2000-2500 intérims. Et c'est pour ça que là, c'est bien ce qui s'est passé avec la Cour de cassation courant janvier. C'est-à-dire qu'elle a pris une position à propos de la Sovab, une entreprise, une filiale de Renault, où elle a dit, ah ben, ces intérims qui ont été utilisés en permanence pendant des mois et des années sont en fait des CDI. Et l'employeur qui a fait ça, eh ben, il a commis un délit, parce que c'est un délit, que d'utiliser des intérimaires ou des CDD sur des postes permanents. Il se trouve que c'est curieux, mais le DRH en question qui a fait ça, qui couvrait ça, c'était Monsieur de Virville, celui auquel Monsieur Fillon a fait appel pour soi-disant moderniser le code du travail. C'est comme si on disait à Monsieur Bédier, on lui confiait la mission de réformer la loi sur les abus de biens sociaux. Vous voyez.
Donc le fameux Virville qui propose un contrat à durée déterminée de longue durée.
Hein, c'est celui qui a le culot de proposer un super CDD. Et ils disent, oh, bah, c'est mieux parce que ça dure 5 ans. Ah bon? Vous allez vivre de 25 à 30 ans, puis vous refaites une autre vie de 30 à 35, puis une autre de 35 à 40, puis à 40 vous vous interrogez pour repasser à 45, et comme ça, par tranche de 5 ans, vous croyez qu'on vit de cette façon-là? C'est ça un super CDD? Ah oui, mais ça plaît aux employeurs. Bah oui, Monsieur de Virville ne fait que plaire aux employeurs, mais sûrement pas aux salariés.
Il faut être un peu flexible, il faut être mobile, il faut pas s'encrouter toute sa vie dans le même boulot.
Et puis quoi encore? Qu'est-ce que c'est que cette salade? Ça n'a rien à voir. Plus vous êtes flexible, plus vous travaillez, moins on vous paye, et moins on a besoin d'en embaucher un autre. La flexibilité, c'est ce qui crée le chômage. Moi, j'ai l'opinion inverse du MEDEF. Hein? Le MEDEF, il pense qu'il faut flexibiliser et déréglementer pour créer de l'emploi. Moi, je crois que quand on réglemente, on crée de l'emploi. Parce qu'on met des bornes. On travaille dans un cadre. Et quand on travaille dans un cadre, on peut pas faire travailler quelqu'un pour deux. On peut pas lui faire 70 heures. On peut pas lui faire des journées d'amplitude de 15 heures. Et on est donc en obligé d'en embaucher un autre.
Bonsoir monsieur, je me permets de vous appeler en fait pour savoir si actuellement vous disposez à votre domicile d'une connexion internet. Oui, vous avez un système ADSL? Oui, vous êtes avec quel fournisseur d'accès monsieur? Avec Onadou? Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée monsieur. Au revoir.
La logique de rentabilité extrême pousse là en ce moment un certain nombre de centres d'appel à s'externaliser à l'étranger, là où la main-d'œuvre est moins chère.
C'est ce qu'on voit effectivement avec des ouvertures de centres en Tunisie, au Maroc, y compris à Dakar. Il y a des centres d'appel qui s'ouvrent là-bas.
Ça marche,
oui, parce que les conditions de ces gens-là là-bas, c'est assez spécial. Ils ont par exemple la météo de la France. Pour les gens qui travaillent pour Téléperformance ou Anadou à Tunis, ils ont la météo de la France. De façon à pas être complètement coupés de la réalité des clients qu'ils ont en face d'eux. Ils ont aussi les informations régulières de ce qui se passe en France, de façon à ce qu'ils sachent et qu'ils puissent répondre si jamais il y a des questions qui viennent de la part des clients.
Parce qu'évidemment, on ne dit pas aux clients qu'on appelle de l'étranger.
Ah non, surtout pas. Ah, surtout pas. Il ne faut pas dire aux clients que effectivement, d'ailleurs y compris là, il y a du courrier qui arrive pour Ouanadou qui est traité par Téléperformance, qui est du courrier qui est envoyé par scanner à Tunis pour être traité à Tunis. Mais le courrier arrive toujours en France. Il faut quand même cacher les choses aux clients. Il faut pas dire aux clients que
ça c'est pas bon. Pour l'image c'est pas bien ça.
Ben non, c'est pas bien pour l'image.
C'est pas vendeur.
Ben c'est pas vendeur et bon donc là il faut le cacher. Hein.
Donc on ne sait pas quand on nous appelle pour nous vendre une cuisine ou pour je ne sais quoi, on ne sait pas si on nous appelle du bout de la rue ou de l'autre bout du monde.
On ne sait absolument pas. Je peux vous dire que c'est la même chose pour les États-Unis qui se servent, eux, de l'Inde, la Grande-Bretagne aussi d'ailleurs. Ils se servent de l'Inde, du Pakistan. Bon, et il était question pour la France, pour un certain nombre de centres d'appel en France, d'installer des centres d'appel en Roumanie parce que il n'y avait pas trop de problèmes. Il y avait des gens qui parlaient en Roumanie, qui parlaient français et qui arrivaient à se débrouiller. Leur problème, c'est de trouver des gens qui ont effectivement une connaissance du français. C'est tout. Dans tous les pays francophones, ça marche. Il n'y a pas de problème.
Dès que Ouanadou annoncera la baisse de son tarif à DSL 512 cabines, bien sûr, monsieur, vous serez bénéficiaire automatiquement sur votre facture de la répercussion de cette baisse sur votre facture dès le mois suivant, monsieur Lacrampe. Donc nous pouvons y aller, monsieur Lacrampe. Je vais procéder avec vous à la vérification de vos coordonnées pour que vous puissiez bénéficier dans les meilleurs délais de cette prestation. Ouanadou, monsieur Lacrampe. Je vais vérifier avec vous l'ensemble de vos coordonnées, monsieur. Je vous écoute, monsieur. Ah, je peux savoir ce qui vous retient plus précisément, monsieur Lacrampe.
Ah, ben, je le comprends parfaitement, monsieur Lacrampe. Enfin, vous savez très bien qu'à son travail, on travaille. Et à la maison, vous avez plus de temps pour consulter la DSL. Très bien. Donc, vous serez quand même plus à l'aise pour effectuer toutes les recherches et l'envoi des documents, monsieur Lacrampe. Autant ne pas vous priver de ce confort. Ah, mais ça, je n'en doute aucunement, monsieur Lacrampe. Vous savez très bien que nous sommes toujours là pour vous présenter nos meilleurs services au meilleur prix, monsieur Lacrampe.
Mais non, vous n'écoutez, vous n'êtes pas sur Rire et Chansons, vous êtes sur France Inter, c'est là-bas si j'y suis. Est-ce que vous entendez? C'est un téléacteur qui travaille dans un de ces centres et qui est tombé, c'est tout à fait authentique, il est tombé sur un monsieur Lacrampe. Ben oui, pourquoi pas, on a le droit de s'appeler Lacrampe et on a le droit d'appeler monsieur Lacrampe pour lui proposer je ne sais quel service, je ne sais quel produit. Ce téléacteur, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Je pense pas, on s'est demandé avec Thierry s'il essaie de faire rigoler ses copains, mais je le crois pas du tout, étant donné ses furieux managers, ses furieux superviseurs qui supervisent et qui veillent au grain, c'est le cas de le dire, au grain, à la seconde près, à l'inflexion de voix près. Alors, on a évoqué rapidement, on a déjà abordé ces sujets sur les travailleurs pauvres. On avait même, avec, je crois que c'était avec Give, essayé de décrire ce qu'on appelle les working poor en Angleterre à l'époque. On disait, bon, oui, mais d'accord, mais ça c'est la base, c'est working poor. Ben maintenant, on dit travailleurs pauvres aussi. Il faut rappeler qu'au cours de l'an passé, 2003, le nombre des chômeurs a grimpé considérablement aux États-Unis, dépassant 5%. En Espagne, le chômage est à près de 12% de la population active. En Allemagne, il approche les 11%. Et puis en France, là donc, on vient d'apprendre que le chômage atteint 9,7%, avec évidemment tout un tas de chiffres qui ne manquent pas d'être contestés, enfin plus contestables que contestés d'ailleurs. Voilà. Mais ces chiffres minimisent la réalité, parce que pendant ce temps-là, le travail à temps partiel imposé, ce qu'on est en train de partager avec ces téléopérateurs, les horaires atypiques, et on vient de nous le dire, tout ça, ça ne fait que se développer dans notre beau pays et ailleurs dans le monde, encore une fois. Et il faut rappeler que près d'un salarié sur sept reçoit un salaire inférieur au SMIC. Les travailleurs pauvres aujourd'hui ne sont plus une exclusivité britannique ou américaine. C'est plus la peine d'utiliser le terme de working poor. Les travailleurs pauvres, c'est chez nous et c'est ainsi.
Vous travaillez dans un call center.
Oui, c'est bien ça. Cache. Enfin, je vais pas citer de nom.
Vous avez quel genre de contrat?
C'est des CDD, c'est des missions d'intérim.
Donc vous avez des contrats de combien?
2 semaines.
Deux semaines, vous faites des contrats de 2 semaines là?
Voire, parfois 1 mois, mais bon, c'est rare.
Rarement plus, quoi.
Voilà. Mm-hmm. Donc c'est nous et notre chance, quoi. Si on atteint les objectifs, ils nous gardent. Si on n'atteint pas les objectifs, ils nous gardent pas. Donc en fait, c'est un objectif par heure qu'il faut faire. En fait, c'est des plateaux avec plus de 40 personnes. Il y a des tableaux avec marqué nos noms dessus. tous les superviseurs, ils ont des statistiques. Et lorsqu'ils voient une personne avec des objectifs non atteints, et bon, ils sont capables de gueuler les noms. Mathilde, il reste encore deux objectifs. Allez, on encourage tous Mathilde. Et dès que la personne réussit à le faire, tout le monde doit l'applaudir.
Non.
Si, si, carrément. En fait, quand on n'entend pas nos noms, c'est que nos objectifs sont atteints. Et c'est toutes les heures, en fait. Ça revient à zéro.
C'est démon, ça.
Oui. Ouais. C'est une grande pression et généralement les gens restent deux semaines parce qu'ils sont obligés et ça part. C'est pour ça que ça recherche tout le temps du monde.
Alors si on n'entend pas son nom, on a le droit à quelque chose ou...
Parfois ils donnent une place de cinéma.
Ah, il y a des places de cinéma.
Parfois, mais bon, c'est des choses qu'ils disent, mais bon, j'ai jamais rien vu.
C'est une ambiance de compétition, quoi.
Un peu, ouais. Même plus que ça. Parce qu'en fait, si on n'est pas dans les premiers, ben, on a plus de chances de partir, de rentrer chez soi.
Ah oui, c'est ça, vous repartez chez vous si vous n'êtes pas...
Si on n'a pas atteint les objectifs, on a plus de chances de ne pas être repris.
Ah, on ne vous rappelle pas, quoi.
Voilà, tout simplement. Donc, à la fin de la mission, on ne revient pas, tout simplement.
Votre nom est crié par le superviseur, on ne vous rappelle pas.
Voilà, ouais. Quand il est trop crié, c'est que ça ne marche pas du tout. Mais bon, parfois, ils encouragent les applaudissements, tout ça... Quand il y a une personne qui a du mal depuis le début et puis un jour elle réussit, bah tout le monde applaudit en fait. Ils essayent d'encourager la personne, mais bon, quand ils voient que ça ne donne rien du tout à la fin, bah, ils ne la reprennent pas, tout simplement.
Très bien, très bien. Très bien. C'est moi qui vous remercie de votre accueil, je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Le capitalisme a toujours eu besoin, je sais que je dis une phrase classique, une fois répétée, mais elle est profondément juste. Le capitalisme a toujours besoin du chômage comme un moyen de pression sur ceux qui ont un boulot, afin de leur dire, ne l'ouvrez pas trop, ne revendiquez pas trop, demandez pas trop de salaire, estimez-vous heureux, parce qu'il y en a qui sont pires que vous. Voilà, ça c'est un moyen de chantage de masse. Et évidemment, quand on fait reculer le chômage, les salaires, les gens disent, ah bah, comptez-moi. Donc le MEDEF, lui, aime bien qu'il y ait du chômage, il aime bien qu'il y ait des précaires, il aime bien que ça soit déréglementé. De toute façon, ce sont des gens, moi j'ai les ultralibéraux d'aujourd'hui, sont des gens, en fait, ils n'ont pas confiance dans les humains, dans les salariés. Ils veulent la schlag, ils veulent les affamer, leur faire peur. C'est même ce qu'ils font aux chômeurs. Regardez, ils ont rien, comme ça. Ils croient que c'est comme ça qu'on obtient plus de productivité. Moi, je prétends que non. Je prétends que quand on désorganise une entreprise en ayant que des temps partiels, etc., les gens sont moins attachés à la maison, les gens sont moins contents, le turnover, etc. Peut-être tout ça, c'est vrai, mais du coup, ça produit moins bien. J'avais un directeur de Monoprix qui m'expliquait ça une fois. Il disait qu'ils avaient remplacé tout leur temps plein, 135 salariés, et tout remplacé par des temps partiels. Alors, il y avait un peu plus de salariés, 150, 160. D'accord. Mais ils disaient, oui, mais alors maintenant, ils font plus attention. Oh, c'est le bordel partout, c'est sale dans les vestiaires. Ils arrivent en retard, il y a l'absentéisme. Et quand il y a quelque chose qui est tombé dans les gondoles, ils se précipitent pas pour les ramasser. Alors les clients marchent sur ce qui est cassé, les bouteilles ou la boîte de lait qui est tombée, et etc. C'est pas comme avant. Avant, quand j'avais mes salariés à temps plein, eh ben ils avaient plus de cœur au travail. Ben, je dis, voyez où ce que ça donne. Vous croyez-vous... le patronat, que c'est comme ça que vous allez faire marcher mieux la productivité et l'économie, et ben vous vous trompez profondément. D'abord, vous faites des malheureux, vous flanquez des cancers sociaux, vous imposez un système qui rend tout le monde malheureux, et même de votre point de vue économique, c'est pas bon.
Et puis, il y a l'apparition, ça vous devez sans doute le constater, de ce qu'on appelle les working poor, c'est-à-dire de cette catégorie d'actifs qui n'a pas assez de travail pour vivre correctement.
Ça, maintenant, c'est des millions de gens, hein. Surtout les gens qui sont à temps partiel, parce que vous avez 3,5 millions de gens à temps partiel, hein, dont 60% c'est subi. J'insiste bien sur cette notion, c'est-à-dire c'est pas des gens qui donc s'en servent comme un complément de salaire, etc. Non, ils font du temps partiel parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Hein, une fois, j'avais une jeune fille qui vient me voir, elle avait été 2 ans à la NPE, elle me dit, j'ai trouvé un contrat, alors je me précipite parce que j'étais contente, c'était dans une viennoiserie, et je signe mon contrat et c'était de 120 heures. Ah, j'étais déçu parce que 120 heures, je peux pas m'en sortir. Et le patron me dit, oui, mais vous en ferez 190, on est bien d'accord. Et elle a dit, j'ai continué à signer le contrat parce que j'avais pas le choix. Et effectivement, j'en fais plus de 190 et ils me payent pas toutes les heures. Ils me donnent un petit peu de sous comme ça de temps en temps, mais c'est tout. Et donc, en fait, c'est un travail subi et appauvrissant parce que les gens, il faut quand même qu'ils se prennent le transport, qu'ils aillent loin de chez eux. Et elle disait, moi, quand j'ai fait mon compte, à la fin du mois, je m'en sors pas. Comment voulez-vous que je paye mon loyer et que je mange avec 120 heures? Voilà. Donc, c'est de la précarité, de la pauvreté. Pourtant, je travaille.
Merci aux uns et aux autres. Merci à Karim, à Jean-Pierre Bourriaud de Sud. Merci à Gérard Filoche, travailleur précaire, unissez-vous. Attaque mille et une nuits, un petit bouquin pas cher. Je hais les patrons de Gisèle Gilbert. Et puis un livre à parole de Gérard Filoche, Les carnets noirs d'un inspecteur du travail. Reportage Thierry Scharf. Technique aujourd'hui Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Notre téléopérateur à nous c'est Christophe Imbert. Et notre téléphone à nous, notre hotline, c'est le répondeur de la Bassigifi, c'est-à-dire le 01 56 40 37 37. Notre manager c'est Koye Nguyen. Et le superviseur c'est Antoine Chao. On se retrouve peut-être, probablement, on n'en sait trop rien, lundi à 17h. Bonne fin de semaine à tous. Salut !